notre temps de table ronde qui n'est pas vraiment ronde. Mais qui se veut pas, on va pas faire un enseignement sur la FSF ou pour Luxelle, mais au moins partager un petit peu le sens de ces, entre guillemets, fédérations, des fédérations affinitaires et non pas délégataires. Donc avec donc affinitaire, c'est entre guillemets, on va dire multisport. Voilà. Et délégataire, c'est une fédération pour un sport. Alors, il y a une grande lutte au niveau du CNOSF sur ces aspects-là. Il y a eu quelques problèmes avec les fédérations affinitaires qui ont été exclues de, je ne sais plus, c'est du.
Non, on ne peut plus être dans le comité. Enfin, c'est pas très clair, mais on ne peut plus être dans le comité directeur.
Voilà,
les fédérations
délégataires.
Ouais.
Voilà, les fédérations olympiques qui sont dans le. Voilà, donc c'est vrai que le CNOF, en parlant du sport français, c'est pas tout le sport français. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques. Mais il y a toujours eu de tous les temps un petit peu des difficultés entre les fédérations délégataires, les fédérations affinitaires. Il fallait être affilié automatiquement dans une fédération délégataire, même si on était dans une fédération affinitaire. Donc il y a toujours eu la tentation de récupérer les adhérents, parce que effectivement au niveau du ministère, plus on a d'adhérents, plus on a d'argent qui rentre, entre autres. Il y a ça, il n'y a pas que les victoires aux Jeux Olympiques ou dans les championnats du monde, mais il y a aussi les effectifs. Et c'est vrai que les fédérations affinitaires sont plus dans le multisport et on pourrait dire le sport pour tous. Et donc pas simplement une recherche de la performance à tout prix, mais de dire voilà comment on accueille tout le monde et comme on l'a entendu tout à l'heure avec Philippe, comment on va aider chacun à grandir, à progresser, chacun à son niveau. Et donc l'exemple de la FSCF et de Luxelles sont des bons exemples. Peut-être si Gilles veut nous parler un petit peu par rapport à la FSCF déjà.
Oui, tu peux avec.
Je ne sais pas si. Oui, il y a peut-être besoin du micro. J'ai dit à Pascal que je n'étais pas le mieux placé pour parler de la fédération parce que je ne suis aumônier national que depuis un an et demi. Et dans le contexte actuel, ça conduit à bien des complications qui ne m'ont pas permis de m'immerger autant que je l'aurais souhaité dans un certain nombre de prises de contact et d'initiatives. Il faut garder à l'esprit le fait que cette Fédération sportive et culturelle de France, historiquement, c'est une fédération de pas trop. Alors, c'est 1898, si j'ai bonne mémoire, avec le docteur Michaud. Et c'était vraiment des patrons, donc très en lien avec l'Église. Très en lien avec l'Église. Il a, de ce que je crois me rappeler aussi, il a commencé à y avoir des délégations, des fédérations délégataires comme la 3F, c'est 1919, je crois. Mais avant ça, c'était pratiquement la FSCF, il y avait une autre fédération, donc très très en lien avec l'Église. Et puis, je fais des grands sauts, je traverse les décennies. Il y a eu toute la phase très stimulante qui nous a été évoquée dans les contextes des guerres, donc les patrouilles avaient des activités physiques, sportives, il s'agissait c'était presque des préparations militaires. Mais il y a des images qu'on garde, hein, avec des grands défilés, des grandes manifestations, avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes, et les aumôniers au milieu de tout ça, en soutane, qu'on identifiait très très bien. Donc une église très présente. Et les décennies passant, il y a eu des choix d'églises, voilà, quelque part, qui ont conduit à s'investir davantage dans l'action catholique, et où on a un peu décroché des patrons. On s'est démobilisé au niveau des patrons. Et c'est très révélateur quand on passe de table en table, par exemple, lors d'un congrès national de la FSCF, on voit plein de bénévoles, de voir des anciens et qui sont là avec nostalgie à se rappeler des années où ils avaient le curé de la paroisse qui était au milieu d'eux, le père Intel qui était sur les bords des terrains de foot, etc. Ils en parlent avec nostalgie. Et il y a eu toute une génération qui a été blessée par un certain décrochage de l'Église au niveau des patrons. Et ça a laissé des traces, et j'en fais encore l'expérience aujourd'hui. Il y a eu tout un passage, et là je le maîtrise moins, il y a eu un livre qui a été fait là-dessus par Laurence Munoz, une étude, montrant l'évolution des patronages aux associations. Voilà, au sein de la FSCF. Si vous cherchez à compter aujourd'hui le nombre de patronages, de patrons au sein de la FSCF, c'est tout petit. Voilà, c'est tout petit, c'est des associations. Dans ces statuts, la FSCF garde une référence tout à fait chrétienne, hein, puisqu'il est dit, la FSCF a, depuis son origine, plus particulièrement pour objet, dans le cadre d'une ouverture à tous, de favoriser l'éducation de la jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de l'homme et du monde en cohérence avec l'Évangile. Il y a un texte encore plus fort, plus détaillé, qu'ils appellent le document fondamental, vers quel homme, par quel chemin, où il y a un certain nombre de phrases, voire de paragraphes très ciblés sur la dimension chrétienne, voilà, et presque missionnaire de la FSCF. Ça, ce sont les textes. Après, dans la pratique, c'était au dernier congrès national à Valenciennes, le président, autour d'une table, on était avec le groupe, ce qu'on appelle le GPS, proposition de sens. Il y avait Monseigneur Luc Ravel qui était là, voilà, comme évêque lié, référent à la FSCF. Et le président de la FSCF a partagé son souci. Il a dit, il y a les anciennes associations, les anciens patrons. Mais il y a maintenant tout un tas de nouvelles associations. Il dit, mais comment leur faire passer l'esprit de la FSCF, l'histoire de la FSCF. Et pour lui, c'était un véritable problème, un véritable défi. Concrètement, quand on est aujourd'hui dans une, je dirais même moi, au niveau du comité directeur, il y a le mot de l'aumônier. Voilà, hein, ça commence par ça. Le président donne la parole à l'aumônier, voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'aborde un sujet de réflexion. Mais au congrès, même au congrès national, il y a la parole à l'aumônier, etc. Mais enfin, on sent bien qu'il est difficile, actuellement, hein, il est difficile de parler de Jésus, par exemple. Vous voyez ? Il est difficile aujourd'hui, même à la FSCF, d'évoquer les patrons. Il y a actuellement une réflexion qui est faite, et on cherche un mot pour ça. On cherche un mot. Voilà. Le multisport ou plurisport ou multisport, mais c'est pas du tout le concept que dans une association, quelqu'un et à la fois dans le football, le judo, le tennis de table. C'est un concept qui se veut englobant de la personnalité tout entière dans une association. Et voilà, je dis, mais c'est exactement ce que, par exemple, nous, on vit dans nos patrons. Là, on est à chercher un mot, mais on va pas dire un patron. Voilà, le mot, quelque part, est trop attaché, trop lié à l'Église, à la dimension chrétienne. Et on va avoir un certain nombre de dirigeants, c'est très, très inégal, bien sûr, hein, qui vont dire à la fois, oui, de toute façon, il n'y a pas à cacher qui on est, mais où c'est pas si simple que ça d'annoncer clairement l'Évangile. Pourtant, ils vont tous reconnaître que dans la FSCF, si on veut avoir des fonds, des subventions de l'État, tout ça, il faut naturellement formuler les choses d'une certaine manière. Voilà. Mais ils sont tous unanimes pour dire que quand ils sont dans des réunions de sport, du comité national olympique ou à la mairie, etc., la FSCF, c'est l'Église, c'est les cathos. Elle est clairement identifiée comme ça. Pourtant, nous, en tant que FSCF, on sent que c'est quand même la réserve, quoi, hein, la réserve. Et là, j'analyse cette situation à la fois, bien sûr, par une déchristianisation assez massive de notre société, mais à la fois aussi, je pense, par ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire un ensemble plein de gens, de bénévoles et quelque chose qui se sont plus ou moins sentis abandonnés par l'Église à un moment donné. Oui. Je pense qu'il y a un passif. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que naturellement, c'est pas simple pour sur le plan de l'évangélisation, de l'Église en lien avec le sport. Il y a des régions, par exemple, qui sont bien représentées. On a des aumôniers, voilà. Il y a d'autres, il n'y en a pas. Il faudrait que l'aumônier national sollicite les évêques dans le contexte actuel. Je n'ai pas pu le faire encore. Ce n'est pas très opportun pour le moment. Ils ont d'autres choses en tête. Mais objectivement, vous voyez, ce n'est pas simple. Vous allez trouver un évêque, vous allez lui demander un aumônier pour le sport. Les prêtres, les évêques, ils courent après des prêtres, des diacres, des référents spirituels. Et vous allez leur demander un aumônier, il va faire quoi? Prenez mon cas, je vais prendre la parole. Voilà, un quart d'heure au début d'une réunion, voilà, il est 20h30, et puis je parle un quart d'heure, et puis la réunion, elle va me conduire jusqu'à 23h, 23h30, où je vais écouter des rapports, des choses purement administratives, etc. Bon, donc, quelque part, il faut y croire pour se dire... je vais m'investir là, mais en tant que prêtre, diacre ou quoi, me dire, mais je fais quoi là-dedans? Et bien évidemment, je ne me vois pas être présent à une réunion, faire ma petite causerie là, et puis dire au revoir et à bientôt. Et derrière tout ça, quel est l'élément le plus important? C'est celui de la présence. La présence. Je pense que dès qu'on touche à cette question de l'Église des sports, et entre autres à l'approche des Jeux Olympiques, l'enjeu, c'est pas tellement le prêchi-prêcha, c'est la présence. Voilà. De se dire, ben oui, l'Église s'intéresse, l'Église est présente, vous comptez pour elle. Voilà. Je vais conclure par ça, je prends ce parallèle parce que j'étais aumônier de Patro. Pendant des années, des années, des années. Si je suis aumônier de Patro et puis que je vais au milieu des gars simplement pour faire ma petite séance de catéchisme d'un quart d'heure ou pour juste célébrer la messe le dimanche, etc., je ne ferai rien. Résultat, zéro. Garantie d'avance. Si je veux que les cœurs s'ouvrent à la bonne nouvelle de l'Évangile, ben il faut qu'ils sentent que le Père s'intéresse à eux, que le Père les aime, que le Père donc leur donne du temps, et il faut accepter d'être là, sur la cour, aller voir jouer, taper le ballon, et être dans la salle à taper la raquette de ping-pong avec eux, la partie de baby, être là, accepter entre guillemets de perdre son temps, simplement en étant là au milieu d'eux. Le samedi soir, enfin, je me revois très bien, je célébrais la messe à la paroisse et je courais au terrain pour les voir jouer. Voilà, pour les voir jouer le soir. Et pour eux, c'était hyper important. Tiens, le père, il est là au bord du terrain, on est proche d'eux. Voilà. Donc, pour moi, c'est cet enjeu au niveau de la FSM, oui, d'avoir cette prise de conscience qu'il y a quand même des gens blessés, hein. Voilà. Parmi tous les bénévoles, on vous donne des chiffres, on dit 40 000 bénévoles, enfin, il y a plein de personnes qui se donnent avec compétence, avec générosité, enfin, c'est magnifique, magnifique. Mais la situation à la fois du contexte un peu de laïcité aujourd'hui et de déchristianisation, et puis ce passif historique fait que voilà, je pense que c'est surtout une présence, être là.
Voilà. Très bien. Alors, je pourrais compléter effectivement sur cette histoire de traumatisme. Moi, j'étais assez surpris, ça fait depuis 15 ans que je suis au milieu départemental au niveau de la FSCF, c'est de voir comment, chez beaucoup, il y avait cette marque, et même certains qui ne l'avaient pas vécu, parce que ça s'est passé il y a 50 ans, donc c'est pas il y a 10 ans. Mais aussi une certaine ambiguïté en disant, voilà, entre guillemets, l'Église nous a abandonnés, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais ce qui est un petit peu vrai, et finalement, en fait, de dire, ben, maintenant qu'on, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'on revient, mais voilà, qu'il y a des présences, il y a quand même des évêques qui nomment des aumôniers départementaux, de dire, mais finalement, est-ce qu'on veut vraiment d'un aumônier? Je sais qu'il y a des endroits où c'est très compliqué. Moi, quand j'ai commencé, j'en ai plusieurs qui avaient à peu près le même âge que moi, qui au bout de 2-3 ans ont dit « mais bon, j'arrête, parce qu'en fait, compte, vous n'avez pas besoin de moi ». Et l'aspect de, tu disais, la question de dire « bah oui, on est les patrons, on ne veut pas utiliser le mot, on veut… » c'est très ambigu. Moi, je me rappelle d'un congrès, national, c'était, je ne sais plus, c'était à Rennes, où on a eu un spectacle qui était assez géant, où ils ont refait la création avec un spectacle qui était magnifique, avec une super gestuelle, et ils avaient changé un mot. Ils avaient remplacé Dieu par Monsieur le Monde. Alors, moi, j'avais, dans les comptes rendus qu'on avait fait, parce qu'au niveau de notre comité départemental, on avait fait des remontées, moi, j'avais dit c'était magnifique et déplorable. Le spectacle était formidable parce que ça nous a montré la création, ça nous présentait, mais en fait, on avait viré Dieu. Et je trouvais ça dommage. Et c'est un petit peu la difficulté au niveau de la FSCF, c'est de dire qu'on accueille tout le monde, mais finalement, en fait, on n'accueille pas tout le monde. On accueille tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'on a eu des fois dans les rencontres au niveau national, au niveau GPS, des jeunes qui disent « mais nous, on veut plus ». C'est dire, mais comment, en respectant les autres, on peut aussi respecter les chrétiens et leur faire une proposition. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais écrit une lettre au président général, juste au moment où je suis arrivé à Luxeuil au niveau national, et d'arriver, c'est là où j'ai connu Gilles et puis d'autres, où, invité à la commission nationale pastorale, on parlait de l'évangile de Jésus. Je me rappelle, on a travaillé sur plusieurs années sur le projet d'animation pastorale pour une éducation à la liberté. Moi, je me suis quand même entendu dire, notamment à Denis Chazot, on en parlait tout à l'heure, on se calme, on va utiliser des mots simples, on va évoquer Jésus et les évangiles, mais là, tu es parti dans un cours de théologie, donc il va falloir... Donc j'avais un petit peu, un petit peu un contraste. Alors c'est un contraste, on va dire peut-être exagéré, parce que tout n'est pas si beau que ça à Luxeuil, mais il y a vraiment une volonté, et en reprenant le projet éducatif de Luxeuil, il y a vraiment cette volonté de dire, ben voilà, les valeurs de Luxeuil et les fondateurs de Luxeuil étaient vraiment appuyés sur ça, que ce soit vraiment des valeurs qui soient fondées sur l'Évangile. Et c'est vrai que sur le projet d'animation pastorale qu'on avait fait à Luxeuil, il y a quelques années, on avait repris en disant, voilà, il y a une bonne nouvelle, on a repris les trois mots essentiels de l'Église, servir, témoigner et célébrer. Et donc on avait fait des fiches, parce qu'il y avait vraiment l'idée dans Luxeuil de vouloir dire, ben, chaque fois qu'on a une compétition, il doit y avoir un temps pastoral. En disant, si on fait du sport juste pour faire du sport, ben dans ce cas-là, on va à l'UNSS ou à l'UCEP pour les plus petits. Si on fait la même chose que l'UNSS, autant aller à l'UNSS. Et donc, c'était de dire, alors il y avait une volonté nationale, alors après, est-ce que c'est appliqué, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir, une compétition nationale en Luxeuil, il y a un temps pastoral, moi je suis arrivé, en FSF aussi, ça m'est arrivé, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, et puis toi, tu as dû le faire aussi. Mais surtout avec l'intérêt de dire, voilà, on ne va pas poser un truc 5 minutes, voilà, on le fout au début, et puis voilà, c'est fini. Mais ça m'est arrivé assez souvent, en Luxeuil et aussi en FSF, de pouvoir travailler avec l'équipe organisatrice, de voir à quel moment on pouvait faire quelque chose, qu'est-ce qui était le plus judicieux, sous quelle forme. Et ça permettait d'avoir effectivement des temps qui permettaient de ne pas simplement dire on fait une compétition. Alors effectivement, c'est une compétition, donc chacun va essayer de gagner, mais voilà, dans quel esprit? Et je pense que c'est vraiment... j'espère que ces fiches ont été utilisées, mais je trouvais que... Alors c'est pas parce qu'on a travaillé dessus, mais je trouvais que c'était intéressant, parce qu'il y avait vraiment des... Voilà, vous pourrez regarder un petit peu ça, on avait fait 5 fiches, justement par rapport à ces thèmes, avec toujours des éléments en se disant, ben, effectivement, quand on organise une compétition, ben, oui, on veut bien mettre l'aspect pastoral, on n'aura pas forcément toujours quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, mais c'était de se dire comment on peut donner des éléments, en disant, on ne va pas, le temps où on parlait des grandes célébrations, des grandes processions, où à chaque événement, il y avait la messe automatiquement, alors on ne va pas forcément faire la messe à chaque championnat, mais dire, voilà, comment on peut colorer la compétition. Et justement, ces fiches étaient l'occasion de donner des propositions de mise en œuvre, des clés de réussite, des points de vigilance en disant, ben voilà, des fois c'est simplement une petite chose, un fil rouge. Il ne suffit de pas grand-chose pour... Voilà, l'idée c'est de les amener à voir que, voilà, on n'est pas... Il y a l'aspect compétitif, mais il y a aussi l'aspect humain. Et c'est des éléments qui me paraissent essentiels et justement valorisés, entre guillemets, dans des fédérations affinitaires. Dire, voilà, on est dans le multisport. Alors, la FSF, en plus, c'est sport et culture. Donc, on a cet aspect-là. Et c'est aussi, je dirais, si la FSF et Luxeuil sont aussi proches, c'est aussi que la FSCF a été fondateur de Luxeuil qui est arrivé quelques années après en 1911. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a gardé le sigle Luxeuil. Mais on a changé la formulation. Puisqu'au départ, c'était, je regardais, l'Union gymnique et sportive de l'enseignement libre. Et ça s'adressait au départ aux garçons des collèges parisiens. Puisqu'en 1911, les filles, voilà. Donc après, ça s'est développé. Et c'est à partir de 1932 que c'est devenu vraiment une fédération nationale. Et puis, ces derniers temps, avec, le changement, il y a eu une volonté de garder le mot Luxeuil. Parce que c'était identifié, donc on a fait un nouveau logo comme à l'FSF, ça c'est un petit peu la mode. C'est vrai que l'ancien Luxeuil, le logo n'était pas forcément si terrible que ça, là, voilà, c'est un petit peu plus coloré, un petit peu plus vivant. Et voilà, en parlant de fédération sportive et éducative de l'enseignement catholique. Donc il y a à la fois sportive et éducative. Et je pense que c'est le projet éducatif de Luxeuil rappelle que, voilà, on est dans la perspective du développement intégral de chaque personne et de toute la personne. Et je pense que c'est vraiment, ça rejoint un petit peu, entre guillemets, ce qui peut être la mission professeurs, c'est pas bien, mais professeurs, voilà, les enseignants en éducation physique, et voilà, et qu'effectivement l'UXL se situe plutôt du côté de l'AS, des associations sportives, mais de dire voilà, même dans la compétition, comment on est attentif à ces aspects-là. Alors il y a peut-être quelques d'autres qui pourraient un petit peu compléter. On voulait intervenir pour présenter un petit peu ces deux fédérations qui en fait touchent beaucoup de monde, à la fois des chrétiens et des non-chrétiens, et c'est un petit peu, alors moi souvent que l'esprit de dire des fois que j'avais écrit, je me rappelle entre guillemets ma vocation sur la pastorale du sport est venue du père René Pichon qui avait participé aux deux premiers congrès et qui en 93 avait écrit un article dans la revue Prêtres diocésains, où il parlait justement que voilà, les prêtres étaient de moins en moins nombreux, les évêques avaient de plus en plus de mal à trouver des prêtres pour chaque mission, donc pour mettre dans le sur le sport. Et moi, j'ai réécrit un autre article, donc c'était il y a, on va dire, 20 ans après, en disant il y a encore moins de prêtres, mais c'est encore plus urgent de mettre quelqu'un sur la pastorale du sport. C'est-à-dire que là aussi, je dirais que j'avais un collègue qui parlait des fois un petit peu de l'autisme des évêques par rapport à l'aspect de la pastorale du sport. Parce que je dirais qu'on a souvent nos évêques, alors je ne taperai pas sur tous les évêques, le mien il est très bienveillant, et puis il y en a d'autres aussi, mais en disant on parle toujours de nouvelle évangélisation, de nouvelle évangélisation, c'est un petit peu des incantations, et quand il faut passer à la pratique, ben on refait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans nos petits trucs, la pastorale du sport, ça fait vraiment partie de la nouvelle évangélisation. On est dans des nouveaux paradigmes, et je dirais que quand on a une pastorale des jeunes sur un diocèse, si on s'occupe pas du sport, c'est quand même, on va dire, même si nos Français ont tendance à se ramollir étant jeunes, il y a quand même 80% des jeunes qui sont touchés par le sport, soit par la pratique, soit en suivant, mais c'est quand même là où on a le plus de chances de les voir. C'est-à-dire que si on veut vivre une nouvelle évangélisation, il y a peut-être à se poser la question comment on travaille à ce niveau-là. Alors peut-être qu'il y en a certains qui veulent réagir un petit peu par rapport à ça, puis il y en a certains aussi qui sont dans le milieu. Oui, Dominique.
J'ai une question en fait sur les nouvelles associations et les nouveaux patronages. Dans le dessin de Versailles, depuis que je connais, on a créé depuis 15 ans un certain nombre de patronages qu'on appelle des ASEL, associations culturelles d'éducation et de loisirs. Est-ce que ces nouveaux patronages adhèrent à la FSCM?
Question un peu épineuse, hein, parce que je vais d'abord resituer la chose. Hein. Dans ce décrochage de l'Église au niveau des patrons, il y a eu, donc, c'est surtout au moment de cardinal Lustiger, voilà, l'étape où il y avait une déchristianisation massive au niveau des enfants qui allaient au catéchisme. Voilà, c'était chiffré, c'était statistique. Donc, le cardinal Lustiger fait partie de ceux qui ont vite vu l'importance des patrons. Il se trouve que nous, comme religieux de Saint-Vincent de Paul, on a toujours tenu contre vents et marées nos patrons. Les paroisses, massivement, avaient décroché, avaient supprimé. Donc les référents, quelque part, c'était les religieux de Saint-Vincent de Paul, les Salésiens, les pères de Timon David. C'était les seuls qui avaient gardé un peu ce type d'œuvre au contact de la jeunesse populaire, quoi. Et donc, comme nous, on était pas mal implantés sur Paris, le cardinal Lustiger a créé sur Paris la FACEL, et donner, encourager à ce qu'on reprenne des patrons. Voilà. Et donc ça s'est développé, c'est sorti de Paris. Il y en a maintenant dans un certain nombre de diocèses de France. Et avec cette difficulté, qui est souvent le cas de l'Église, qui a peu de coordination. Voilà. Et donc, même à Paris, la FACEL n'a pas vraiment de lien avec la FSCF. ces nouveaux patrons, massivement, archi-massivement, n'ont pas de lien avec la FFCF. Parce que parfois, ils n'ont pas d'activité sportive qui pourrait être, je sais pas, une équipe de foot, une équipe de rugby, ou quelques jeunes qui veulent jouer au tennis de table, ou des choses comme ça. Mais là, c'est tout un travail à faire pour mettre en lien ces patronages avec la FSCF, la FSCF ayant pour elle, naturellement, toute la structure juridique vis-à-vis de l'État, des autorités civiles. Dès qu'on veut faire une activité un peu organisée, y a tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut. Donc là, il y a un lien à créer, très, très clairement.
C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes pratiques sportives peut-être que dans les anciens patrons, dans ceux d'aujourd'hui où on n'organise pas vraiment de club.
Tout à fait, mais tout en sachant que ça a été une de mes surprises, de découvrir l'ampleur de la diversité des activités proposées par la FSCF, que ce soit sur le plan du sport, avec vraiment des nouvelles activités auxquelles j'aurais même pas pensé, dont je connais même pas le nom, voilà. Et puis sur le plan culturel aussi. Et avec aussi cette autre facette que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire que la FSCF a élargi les générations. C'est plus seulement les enfants et les jeunes. Il y a maintenant des choses intergénérationnelles, il y a des choses pour des personnes d'âge mûr, et même des personnes un peu plus âgées, enfin, etc.
Alors on retrouve quand même des associations qui sont dans les deux, FACEL et FSCF. Effectivement, c'est souvent des patronages qui ont des équipes sportives et qui veulent participer à des compétitions. Alors c'est vrai que des fois on a eu l'aspect d'interpellation de ces patronages-là en disant « oui, on arrive à un championnat, il n'y a aucune proposition spirituelle qui est faite, si on demande à l'aumônier qui est là de nous dire la messe, il y a eu des fois quelques petites tensions ». Moi, c'est vrai que j'avais tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant il faut faire attention, il ne faut pas qu'on fasse ce qui a failli arriver au scoutisme de France, qui avait un petit peu. S'est éloigné un petit peu de l'aspect spirituel et qui fait qu'il y a les scouts d'Europe qui se sont créés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais que voilà, ils n'ont pas failli disparaître, mais voilà, il y a eu un petit peu cet aspect-là. Et de dire, on a eu ça un petit peu aussi au niveau des mouvements d'action catholique, où l'aspect catholique a des fois un petit peu disparu, qui a fait que l'action catholique dans pas mal de diocèses s'est un peu cassé la figure. Et c'est aussi une pointe d'attention au niveau de la FSCF, de dire si on perd notre aspect spirituel, pourquoi pas la FSGT. Voilà, ils ont des valeurs aussi. C'est-à-dire si on nivelle par le bas en disant on va se mettre au plus petit dénominateur commun, on va arriver à être comme, et je dirais même des fois, j'ai que des affiches qui ont été faites par le GPS ont été reprises par la Fédération Sport pour tous, je crois bien, parce qu'ils trouvaient ça super. Donc effectivement, on avait sur les quatre piliers essentiels au niveau de la FSCF, c'est vrai que solidarité, voilà, etc. Mais dire, voilà, comment, quelle est proposition pour aller aussi plus loin, et toujours avec l'idée de se dire, voilà, qu'on puisse être à tous, mais vraiment à tous. Et c'est peut-être justement l'enjeu pour pouvoir accueillir des patronages de la FACEL, ou qui ne sont pas forcément à la FACEL, qui veulent avoir, profiter de l'expérience de FSCF au niveau sportif, au niveau formation aussi, parce qu'il y a pas mal de formations qui sont assurées. Mais comment aussi au niveau spirituel on peut être présent.
Je donne une précision là. D'abord, au congrès national, chaque année de la FSCF, il y a la célébration. C'est toujours préservé avec ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est même l'évêque qui vient célébrer. Donc ça, c'est préservé, et apparemment, ça n'est pas discuté. C'est pas, bien sûr, la célébration n'est pas imposée, hein, mais en tout cas, elle est prévue au programme. Et puis, j'évoquais tout à l'heure des documents Après, on rêverait qu'il soit plus mis en application. Hein, mais là, le document qu'on appelle le document fondamental de la FSF, qui date de 2008, vous voyez, il est dit, je prends des petits passages, « Tout homme est notre frère ». C'est beau, ça, on est dans la foulée de Fratelli Tutti. Voilà, « Tout homme est notre frère ». « Notre éducation est basée sur la recherche de la justice et de la vérité, sur l'amour de tous, en référence à Jésus-Christ, signe de l'amour de Dieu. » Et on nous dit, « Nos engagements et nos activités au sein des associations doivent nous permettre de vivre l'Évangile, de témoigner, de préparer l'annonce de Jésus-Christ autour de nous. » Il y a des phrases comme ça, très, très explicites, très claires. Hein. Après, la mise en pratique, c'est plus compliqué.
Oui, c'est souvent aussi variable d'un département à l'autre. Il y a des départements où, effectivement, cet aspect chrétien est présent. Moi, je prendrais l'exemple du Puy-de-Dôme, où quand on a au niveau, chaque année, on fait une rencontre régionale au niveau, entre guillemets, des aumôniers et des GPS. Chaque année, on est à 4 au niveau de notre département. Il y a le président du comité et puis il y a 2 autres membres avec moi. Donc, et chaque assemblée générale du comité, il y a la messe. Moi, j'interviens aussi régulièrement. Il y a des propositions qui sont faites. Enfin, je dis, pour Clermont, c'est ça, mais il y a d'autres lieux aussi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres lieux où c'est plus difficile. Mais après, c'est aussi comment, quand on est aumônier, on prend sa place. Et moi, j'écoutais un aumônier qui me disait, mais on ne laisse pas la parole au conseil d'administration. Je dis, mais moi, si on ne la laisse pas, je la prends. Et bon, on ne sera pas de la prendre. Mais voilà, il y a aussi cet aspect-là, des fois aussi, au niveau des aumôniers, en disant, je ne veux pas m'imposer. Et moi, je lui dis, bah, je suis là, et là, je suis là, et on y va. Mais voilà, ça montre aussi. Ouais. Et souvent, alors moi, je suis dans un département où les associations, la plupart, elles sont centenaires. Et dans ceux qui sont dans les comités directeurs de ces associations, ce sont des chrétiens, ils sont engagés. Mais il y a toujours cette question qui se pose, c'est de se dire, voilà. Et pareil avec les nouvelles associations qui arrivent, comment faire découvrir les valeurs de la FSCF et toutes les valeurs, pas simplement les valeurs humaines. Et c'est vrai qu'on a cette question-là qui peut peut-être rejoindre un petit peu l'aspect de la formation. Alors, je ne sais plus si c'est M. Gilles qui l'évoquait ou Philippe, sur l'aspect de... on accueille des professeurs, certains sont formés, c'était Gilles, sont formés dans l'enseignement catholique et les autres ne sont pas formés et ils arrivent dans nos établissements et il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'on se retrouve aussi avec, avec des associations qui arrivent à la FSCF et de dire, bah, si on prend les membres de n'importe quelle association, combien il y en a qui savent qu'ils sont à la FSCF. Je sais que sur la région, on avait fait, je ne sais plus si c'est sur l'Auvergne ou sur... c'est peut-être encore sur l'Auvergne, on avait fait un petit tract de présentation de la FSCF et qu'on disait, ben voilà, on vous le donne et vous le diffusez à tous les adhérents de votre association. Après, si ça les aide, mais au moins, de dire, voilà, on est la FSCF, voilà, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous inspire, et voilà, si on le dit pas, ben les gens ne le sauront pas. Je ne sais pas si Christophe veut nous dire quelque chose, lui qui est président d'un patronage sur ces aspects-là.
Merci. J'ai mis mon micro. Oui, effectivement, on a créé un patronage à l'initiative du prêtre de la paroisse. Et effectivement, il est présent à chaque mercredi après-midi. Donc, ça nécessite du temps pour lui. Moi, je ne suis pas de nos groupes laïcs. Et on a un qui est professeur d'éducation physique, enseignant, et qui vient aussi pour animer la partie sportive. C'est un patronage qui dure sur 3 heures. Et il y a 3 quarts d'heure de temps spi. Qui sont des temps à la fois où on parle véritablement de Jésus. Ils sont souvent agrémentés de, comment dirais-je, de vidéos, de choses comme ça, pour être... C'est pas du catéchisme, hein, c'est un petit peu différent. Voilà, par exemple, on s'est servi de la béatification de Carlo Acutis pour justement essayer de sensibiliser les gens, les jeunes à la sainteté. Alors, si vous voulez, moi, mon patronage, on a la chance sur l'Oise, sur le diocèse, d'avoir une association qui s'appelle Avenir Jeunes 60, qui est une association diocésaine, qui a été créée pour le PLVTT, dont je fais partie depuis... Donc, on s'est rattaché à une association locale. Et par contre, j'ai entendu parler, effectivement, il y a une sorte d'association qui va se créer, qui s'appelle l'Union, et qui essaie de fédérer l'ensemble des patronages de France pour essayer de les sensibiliser. Alors, dans un patronage, il n'y a pas forcément du sport. Hein. Nous, c'est vraiment une spécificité. La plupart du temps, dans les patronages, c'est plutôt des activités multiculturelles. Je crois que c'est assez rare qu'il y ait vraiment une activité sportive régulière, comme nous avons, c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est de la lutte. Donc, les garçons savent qu'ils viennent pour ça. C'est de la lutte éducative, évidemment. Hein, c'est de la lutte collège qui est adaptée. Voilà. Donc, que dire d'autre? Donc, effectivement, c'est pas posé la question pour moi, parce que je ne connaissais pas, du rattachement à la FSCF ou à l'UGSL, SEL, pardon.
UGSL.
Donc, ça, c'est pas quelque chose que je connaissais. Donc, je suis content de voir ce qui peut se présenter. Voilà. Donc, voilà un petit peu les patronages. En général, ils sont un peu... pour l'instant, en France, on est un peu tous à être en fonction de ce qu'on découvre par nous-mêmes. Quoi. Il n'y a pas tellement d'aide au niveau national. Bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
D'accord, merci. Oui, Gilles.
Oui, il y a en ce moment une initiative qui tend à créer une union des patronages pour aider justement des initiatives qui ont lieu à des échelons locaux et des gens qui sont parfois un peu démunis pour savoir comment faire, comment s'y prendre sur le plan légal, etc. Et là encore, il n'y a pas beaucoup de liens. Hein, c'est un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, la FACEL. Donc moi j'ai été contacté par Marc Guidoni qui est un petit peu la personne en tête de cette initiative de l'Union des patronages, et je suis en train de travailler, j'espère que je vais aboutir à ce qu'il puisse prendre contact avec le président de la FECF. Voilà, on a des initiatives, on a la FACEL, l'Union des patronages qui va se créer, alors qu'on a déjà une grosse structure en place FECF, et surtout qu'il y a une insistance, par exemple, sur la question des formations BAFA, BASD, alors que la FSF a déjà une structure très en place, reconnue par l'État. Donc, il y a un manque de lien, de concertation, de coordination entre toutes ces bonnes volontés, ces belles initiatives.
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... Oui.
Il faut savoir quand même que dans l'enseignement catholique, tout le monde n'est pas affilié à l'UCL. J'avais fait l'enquête nationale.
Oui, il y en a beaucoup qui sont uniquement à l'UNSS.
Voilà. Alors, il y en a les riches pour les doubles casquettes, parce qu'il faut payer double affiliation. Ouais. Les autres, ça dépend de la situation géographique aussi. Parce qu'on peut être dans un établissement complètement privé, complètement paumé à 100 bornes du prochain. Il y a des lieux aussi comme ça. Et la proximité fait qu'on est à l'UNSS. Mais je me souviens que Paul Malarc avait dit en 2004, rien ne justifie qu'un établissement catholique d'enseignement ne soit pas affilié à l'UCEP. Il y avait ça dans la salle là-haut, là, de Saint-Jacques. Voilà, mais sauf qu'on n'y avait pas répondu, mais tout le monde trouve des justifications quand même.
Voilà, et puis c'est vrai que c'est aussi quelle proposition on fait. Parce que je vois, par exemple, sur notre département, on a beaucoup développé, on a redéveloppé Luxel, mais c'est vrai qu'on est commencé par les premiers secours. C'est vrai que, alors, c'était une porte d'entrée pour faire que les établissements adhèrent à Luxel, parce que justement, les formations aux premiers secours étaient beaucoup moins chères qu'ailleurs. Donc, c'était une porte d'entrée, et après, enfin, on avait déjà commencé avec des raids multisports, et donc, voilà, ils participaient à ces raids multisports, des crosses, enfin, etc. Mais c'est vrai que les établissements sont aussi un petit peu dans la rentabilité en disant, ben voilà, nous, dans notre établissement, on fait tel sport. Est-ce que vous pouvez nous proposer des compétitions? Si vous ne nous proposez pas de compétition, on va passer à l'UNSS, ou on reste à l'UNSS. Et donc, ça dépend aussi beaucoup de ceux qui veulent s'investir aussi.
De l'offre et de la demande, voilà. Des personnes qui sont capables de piloter des commissions, de se faire fonctionner un système qui est assez lourd, où l'argent ne rentre pas toujours, les subventions non plus, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on met en place? Quel temps on donne? Est-ce que les élèves seront disponibles? Est-ce qu'on ne les laisse pas partir s'ils sont partis à 11h pour le tournoi de foot? Est-ce qu'ils vont pas avoir le cours de maths de 11h ou pas? Il y a toute une ouais. C'est les complexités de l'association sportive reliées à celle d'une fédération.
Ouais. Et puis aussi, il y a l'aspect dans tout le, je dirais, dans le primaire aussi. Et je vois sur Richard pour en parler un petit peu, mais dans le 43, dans la Haute-Loire, il y avait pendant longtemps tous les établissements primaires étaient affiliés à Luxel. Il y avait plein de choses qui étaient faites, mais le secondaire, il n'y avait rien qui était proposé. Je sais que nous, sur notre département, en fait, on a travaillé sur des malles pédagogiques. Donc, on a essayé d'en diffuser très largement pour permettre justement à avoir des malles pédagogiques pour les établissements, pour justement que, on va dire, les instits puissent avoir le matériel pour pouvoir dire, ben voilà, on peut faire plein de choses. Et donc, ça a été, et puis là, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le président de la région qui a enveloppé, qui a libéré une grosse enveloppe, je crois même que c'est de l'ordre de 300 000 euros pour Luxel, pour l'achat de matériel. Donc voilà, chaque département a son enveloppe. Je sais que sur le comité, on a 20 000 euros à dépenser. Mais voilà, donc on a permis de refaire des nouvelles malles pédagogiques pour le primaire, voilà, du matériel pour le premier secours. Voilà, donc effectivement, quand il y a des moyens financiers qui viennent, c'est intéressant. Mais ça reste effectivement une question aussi de personnes. Alors que, enfin, moi, je vois sur notre département, il y a vraiment la volonté de développer Luxel, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir la question de certains établissements, c'est-à-dire qu'il faut tout. Il y a l'aspect porte-monnaie, il y a l'aspect performance qui joue aussi. Et c'est vrai que nous, l'angle du premier secours, c'était voulu dès le départ en disant on va pouvoir assurer, mais voilà, c'est une façon de les faire venir à Luxel, et après, une fois qu'ils sont cotisants à Luxel, on leur montre tout ce qu'on peut leur proposer.
Du hameçonnage. Mais ouais. Ce qui est important aussi, c'est que les gamins qui faisaient un podium pour France, soit Luxel ou l'UNSS, ils avaient déjà 16 sur le bac, leur tombait la note, et ils avaient un petit oral pour les 4 derniers points, coefficient 2 comme une option lourde. Et donc c'était très intéressant pour beaucoup d'établissements, vous savez qu'on a la course aux mentions, on essaie maintenant de jouer les gamins. Ouais. Donc c'est très intéressant de faire monter le pourcentage de mentions avec de très bonnes notes qui venaient s'ajouter aux autres. Et donc ça, l'établissement chez nous faisait l'étude, alors c'était plus facile d'avoir fait un podium en France à l'UNSS ou à Luxel. Quand on est quand même bien moins nombreux à Luxel, on venait faire les compètes à Luxel et la pratique régulière à l'UNSS. Voilà. Et c'est vrai que on s'accommode un peu dans les établissements avec ce qui est proposé, ce dont on a envie et ce qui existe et ce que veulent les profs aussi. Parce que ce qui fait marcher une AS, c'est avant tout les enseignants. Et effectivement, comme dit Gilles, selon la formation qu'on a reçue, eh bien, on n'a pas un rapport à l'AS qui est du même fonctionnement. Moi, tous les gars que je rattrape en master qui viennent du public, ils ne savent pas ce qu'est Luxel. Voilà. Chez nous, ça n'existe pas dans le public. Gustave Marcel.
Mais dans les textes, en plus, au niveau du public, l'affiliation UNSS, elle est obligatoire.
Ah oui, tout le monde y est.
Alors que voilà, c'est là où il y a déjà une volonté politique ou pas, c'est qu'on devrait avoir. Donc, sur les syndicats, quand Paul Marat et les.
Je me suis battu pour ça.
Oui. Et donc pourquoi, à un moment donné, au départ, à Metz, souvent quand même, on entendait l'UNSS, c'est nous, on appartient à l'UNSS. On était assez éclatés, hein. Dans le département, c'était toujours, on savait faire des kilomètres pour vrai. Mais par contre, ceux qui jouaient le jeu, on va dire, de l'interne, c'est-à-dire de Luxel, après, ils avaient cette possibilité éventuellement de dire, ben, à ce moment-là, vous pouvez faire une affiliation UNSS aussi. pour avoir la double affiliation, si éventuellement c'est plus riche au niveau territoire de jouer contre les copains de l'école d'en face, tout ça.
L'obligation de s'affilier avec l'AS, elle date de 1949, je crois. Donc, et la S, pour PS, 1945, octobre 1945. Donc c'est une solution très ancienne mais qui dysfonctionne toujours.
Et les enseignants qui viennent de l'ESS et qui arrivent donc dans le privé, comment ils
réagissent? Tu as été formé par le public et qui arrivent dans l'établissement privé.
Oui, c'est ça.
Et là,
globalement, comment ils réagissent?
L'incident qui arrive, il prend ce qui existe. Il arrive dans une équipe qui a l'ESS, il va à l'ESS, il arrive dans une équipe qui a l'ESS, il va à l'ESS, il arrive dans une équipe où il n'y a rien, mais
rapidement, il n'y a pas. Je ne sais pas, tu n'en as pas entendu dire un peu comment il. Il percevait.
Les valeurs, on avait fait quand on avait fait l'enquête. Oui. Tu verras, on avait fait des sondages. Qu'est-ce qui fait venir la convivialité, la performance, mais, tu verras, toutes les réponses sont variées. Aussi variées qu'au congrès de l'appel, j'étais allé demander pourquoi vous mettez vos enfants dans l'enseignement catholique. Alors là, c'est extraordinaire. Les réponses sont extraordinaires. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup de votre confiance.
Merci Philippe. Et puis à très bientôt.
Philippe Michel.
Ouais. je vois qu'il est 19h, on va peut-être s'arrêter là pour respecter ceux qui nous font le repas. On remercie Alain et Christophe qui nous ont rejoints par visio. Alors Alain, tu nous enverras un autre lien pour demain matin.
Je vais faire le maximum, mais c'est assez compliqué. Vous avez compris qu'on est en situation de bug. je vais faire le maxi.
D'accord. Donc voilà, donc il y a une session de 9h15 à midi, et puis l'après-midi de 16h à 19h.
J'ai tout de même trois toutes petites choses à dire.
Oui.
La première, c'est que pendant quelques années, la conférence des évêques avait organisé un truc qui s'appelle Église en périphérie. Et qu'il y a eu une séance annuelle complète sur les patros. Voilà, ça c'est la première chose. Et il y a un document épiscopal là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Gilles Morin a tout à fait eu raison de rappeler un peu l'histoire et qu'il y a des blessures dans l'histoire. Ces blessures s'engendrant sans doute assez souvent les unes les autres. Hein. Alors je ne vais pas remonter, mais l'Action française, puis les mouvements d'action catholique, puis les nouveaux mouvements. Enfin bref, tout ça s'engendre quelquefois quand c'est abrupt, quoi. Et donc moi, ce que je voudrais plutôt souligner, c'est deux points. Le premier, c'est c'est le bibliste qui parle. Il faut qu'on ait l'humilité de comprendre qu'on est complémentaires les uns des autres et que on forme le corps du Christ et que tout le monde ne va pas être le pied, tout le monde ne va pas être la main, sinon ça ne marche pas. Et donc c'est important aussi de se faire confiance les uns aux autres, en sachant que notre foi, elle prend des colorations évidemment différentes. La deuxième chose, c'est que vous voyez bien que le nombre de prêtres est en chute verticale depuis très longtemps, et que donc il faut peut-être aussi aider les évêques à imaginer des nouveaux ministères. Ce qui est faisable, hein, là il y a peut-être une réflexion à faire sur peut-être des nouveaux ministères dans le monde dans lequel vous êtes et vous parlez. Et je m'arrête.
Oui, on peut être aumônier sans être prêtre.
Hein.
Voilà, et puis,
Oui, mais ce que je veux dire, c'est sur la diversité des ministères. Les évêques n'ont pas forcément beaucoup de références là-dessus. Plus vous allez faire des partages d'expérience en disant « Tiens, nous, on a inventé ça, il se passe comme ça », plus on les fera remonter et plus ça peut donner des chances d'avoir des ouvriers sur le terrain. Voilà.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Et puis donc, nous, on va se retrouver... à la salle à manger.
Et on espère vous retrouver en état de marche demain matin.
Oui, oui.
Festoyer, mais rester encore en état de compétition pour demain matin.
Oui.
Bonne nuit.
Bonne nuit, au revoir.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.